RCF.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René. Prenez place au sein de la grande agora. Nous allons discuter de philosophie, de science, avec Jean-Marc Lévy-Leblon et des textes qui sont tirés d'un recueil qui s'appelle Impatience. Donc, nous avons abordé la semaine dernière un texte qui était tiré d'une de ses conférences et maintenant, nous allons aborder un texte qui va nous faire réfléchir à notre époque. Alors, nous rappelons que Jean-Marc Lévy-Leblon est professeur à l'Université de Nice. Il est physicien, essayiste, et donc il réfléchit avec une approche philosophique de la science telle qu'elle se fait. Jean-Marc Lévy-Leblon se définit volontiers comme un critique de science, de la même façon qu'il y a des critiques d'art. Et puis, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder un texte qui s'appelle « Qui contrôlera les contrôles ?». Vous êtes autour de la table avec Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier, Nicolas Lemoine et moi-même Nazim Fattès. Alors, nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine qui, en même temps que je vous parle, est en train d'écrire son résumé et qui va nous résumer en quelques mots, en quelques phrases, notre émission de la semaine dernière.
Oui, dans notre dernière émission, nous avons abordé un texte de Jean-Marc Lévy-Leblon, physicien de formation, et de métiers qui s'est intéressé à la philosophie, notamment via l'épistémologie, donc la réflexion sur la pratique scientifique. Il s'interrogeait dans le texte que nous avons abordé sur le terme de science exacte. Que cela signifie-t-il? Nous y voyons un distinguo entre une science avançant par le seul discours et une science faisant appel à une quantification de grandeur physique, donc d'une science qui s'est faite nombre. Et avec le nombre, donc, l'illusion qu'on pourrait atteindre une précision infinie, et ce serait une mauvaise compréhension du terme science exacte, qui peut être d'ailleurs une mauvaise appellation, c'est ce que trouve Jean-Marc Lévy-Leblon, dans le sens où l'usage d'un nombre trop grand de décimales est en fait aberrant, et un nombre de chiffres significatifs limité, dû au fait que toute mesure est entachée d'erreurs, d'une part parce que le système lui-même peut ne pas être bien défini, parce qu'il y a du bruit, parce que toute mesure se rapporte à un étalon, et que cet étalon est lui-même défini avec une précision limitée. Alors, ensuite, nous avons parlé de relativité et de relativisme, en distinguant les deux, en disant que la relativité, qu'elle soit galiléenne ou einsteinienne, donnait un système d'équations qui permet de passer d'un observateur à l'autre, mais en décrivant un même phénomène.
D'un référentiel à un autre.
D'un référentiel à un autre, et ça, c'est ce que j'entends par le passage d'un observateur à un autre. Et donc, nous avions terminé sur le fait que la science était avant tout une forme de décrire le monde et qu'elle n'était pas étrangère à une certaine forme de fiction, dans le sens où elle n'est qu'une représentation.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est en fait, on vit quand même dans un temps qui a une certaine foi dans la science, une certaine foi dans le nombre, une certaine foi dans la quantification. Et ce qu'on a dit, ou qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit la semaine dernière, c'est qu'il y a de bonnes raisons de le faire. En revanche, il y a des dangers. Et tu parlais du nombre et de la science qui s'est faite nombre. Je vais faire de la publicité, même si ça ne plaît pas à mon ami Sylvain ici, pour un livre qui est écrit par Olivier Rey et qui s'appelle « Quand le monde s'est fait nombre » et qui questionne notre foi démesurée de notre temps dans les statistiques et dans la quantification des phénomènes sociaux par les statistiques. Bon, c'est un livre très intéressant et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler autour de cette antenne peut-être la saison prochaine. Voilà. Alors, revenons à ce texte de Jean-Marc Lévy-Leblon. On va donner la parole à Anne qui va lire le début du texte, donc qui s'appelle « Qui contrôlera les contrôles ?»
On ne peut douter des progrès considérables que les systèmes de soins modernes ont apportés à la santé humaine, au moins dans notre pays. mais cette amélioration globale se paie aujourd'hui de fortes dégradations locales. Une fraction désormais non négligeable des hospitalisés, on parle d'environ 10%, contracte à l'hôpital des maladies nouvelles sans rapport avec leurs troubles initiaux. Il ne suffit pas de dénommer savamment pathologie iatrogène ces retournements du système de santé contre lui-même pour les camoufler, et encore moins pour y porter remède. On peut peut-être juste préciser là qu'il nous semble que maintenant on appelle pathologie iatrogène, peut-être on appelle maladie nosocomiale.
Alors c'est intéressant, voilà. Parce qu'on passe d'un terme compliqué grec à un autre terme compliqué grand grec.
Mais, voilà. Mais voici que des dérèglements analogues affectent la technique. Peut-être par contagion de l'humain au machinique, c'est dans un hôpital qu'est survenu un pittoresque incident. À peine inauguré, flambant neuf, l'hôpital de l'Archer à Nice fut pendant une demi-heure victime d'une panne de courant suite à un violent orage. Or, le réseau électrique n'avait, lui, connu qu'une coupure de moins d'une minute. Laissons la parole au directeur général de l'hôpital. Le courant est revenu tellement vite que les appareils de secours n'ont pas saisi le message et se sont arrêtés. La coupure d'EDF, finalement, a été trop brève.
Donc ça nous place face à un paradoxe, en quelque sorte.
Oui.
C'est que le réseau de secours n'a pas vu la coupure parce qu'elle était trop brève. Alors, donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger, de s'étonner par rapport à ce petit exemple qui est pris
Oui, on peut, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on a, avec la technologie qui se développe, on a tendance à automatiser beaucoup de choses. Beaucoup de systèmes maintenant sont automatiques. Et le problème, c'est que l'automatisation, c'est bien, mais il y a aussi des limites, des limites de contrôle qui font que parfois, on n'a pas forcément prévu tous les cas. Et donc, il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et le système, du coup, réagit pas d'une manière qu'on voulait.
Alors, quelle différence tu fais entre technologie et technique? Est-ce que tu fais une différence, Sylvain? Moi, j'aurais dit la technique, parce que la technologie, on peut dire, c'est tout ce qui est plus évolué, qui utilise justement une science derrière. Mais finalement, il y a technique aussi, par exemple, dans tout ce qui est... On parle de technique médicale et ainsi de suite. Donc peut-être qu'on peut dire la technique comme quelque chose de plus englobant encore que le mot technologie lui-même.
Oui, je pense que ça serait plus large. Après, ça dépend aussi si on l'entend au sens grec.
Voilà, alors, on ne peut pas l'entendre au sens grec. Parce qu'effectivement, dans technique, on entend techné, qui fait référence à quelque chose. Techné, ça s'oppose chez les Grecs à phusis, qui est la nature. Donc techné, c'est tout ce qui est fait de main d'homme, qui peut être...
C'est l'art de manière générale.
Qu'on entend dans art et qui donne art et métier. Donc, par exemple, quand on construit un pont, on dit un ouvrage d'art, d'ailleurs, et qui donne ensuite art dans le sens les beaux-arts. Et on peut penser à la musique. Donc, tout ça est englobé par le mot technique. Mais justement, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal, on est moins à l'aise à prendre la technique comme un ensemble. Vraiment, on aurait tendance à dire les lycées techniques, c'est quand on fait plomberie, CAP. La technologie, c'est un peu mieux. La science, ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Polytechnique, typiquement, on ne fait pas beaucoup de technique au sens lycée technique. On peut peut-être lire la suite de ce texte.
Oui. C'est pour des raisons tout à fait comparables que le premier lancement d'Ariane 5 a connu un échec cinglant. La fusée s'est parfaitement comportée jusqu'à ce qu'un dispositif de contrôle hérité d'Ariane 4 et réglé pour réagir à certaines valeurs des paramètres de vol trop élevés pour cette machine, mais parfaitement normal pour sa cadette Ariane 5, interprète à tort comme anormaux les signaux reçus et déclenche des manœuvres aberrantes, conduisant à la catastrophe. On peut sans crainte parier que vont se multiplier ces pannes d'un type nouveau, dues non au système, mais à ces dispositifs de contrôle. On pressent la réaction des techniciens. Entre guillemets, il n'y a qu'à installer un dispositif de contrôle du dispositif de contrôle. Et ainsi de suite.
Ça c'est une critique, vous voyez, on le dit, une critique de science, une critique des techniciens, et il ne faut pas entendre technicien dans le sens le technicien. Le technicien, c'est tout le monde qui sont en rapport avec la technique.
C'est toute la chaîne de
voilà,
de
donc l'ingénieur est un technicien au sens le plus large, l'ouvrier, tout le monde, quoi, y compris le manager qui fait la gestion économique de l'entreprise.
Voilà, et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le problème, c'est quand on automatise les choses, soit on est sûr d'avoir un système qui est fiable à 100%, qui va toujours bien réagir dans toutes les situations, mais ça, a priori, c'est très difficile à faire.
Ça voudrait dire que son concepteur a tout prévu et qu'il est comme Dieu.
C'est très compliqué. Et
toi, tu nous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de mesure absolue en physique, de toute façon.
Jamais, oui. Il y a toujours une mesure. Une mesure physique n'a de sens que si elle est donnée avec son incertitude. C'est ce que Jean-Marc Lévy-Leblond rappelle dans le texte que nous avons lu, enfin que nous n'avons pas lu la semaine dernière, mais qui est la suite de la conférence. L'exactitude de la science, c'est sa capacité justement à estimer l'erreur qu'elle commet en donnant un chiffre. Le chiffre, c'est un chiffre plus ou moins quelque chose.
C'est ça.
D'accord.
Et pour le coup, le problème du contrôleur, c'est de savoir qu'il n'est pas infaillible et qu'il lui-même peut tomber en panne. Donc il faudrait, ce que propose Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est de rajouter des contrôleurs pour contrôler les contrôleurs.
À l'infini. Donc ça fait une réaction.
C'est une fuite en avant.
Oui. Soit il tombe en panne, soit il se trouve face à une situation qui n'avait pas été prévue par le concepteur.
Mais alors qu'est-ce qui fait qu'un avion vole ? Puisque un avion, c'est des millions de dispositifs, et pourtant ça marche.
Oui, effectivement, c'est assez complexe. Bon, alors, il y a tout un ensemble de processus qui sont mis en place, heureusement, pour faire que les interactions entre les éléments se passent bien. Mais c'est clair que là, pour le coup, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un être humain qui puisse expliquer de A à Z le fonctionnement d'un avion du genre A380.
C'est-à-dire, ce qui est le plus compliqué dans ces machines, c'est moins le dispositif, enfin la machine qui permet de faire voler, les réacteurs, les ailes, etc. Même si évidemment, c'est plusieurs groupes qui s'occupent de chacun.
C'est
de
ça, oui,
pièces.
Voilà, c'est réparti, la connaissance est répartie sur plusieurs personnes.
Mais c'est pas encore ce qui est le plus complexe. C'est le plus complexe, c'est tout le système de commande de l'ensemble qui fait intervenir tout un tas de capteurs, de programmes informatiques et de processeurs qui travaillent en parallèle. Et qui ont été conçus par petits bouts, par boîte.
Donc si je suis le raisonnement, il y a Ariane 4, il y a Ariane 5, après il y a Ariane 6, Ariane 7, Ariane 18.
Non,
on n'y est pas encore. Mais ça ne cesse de progresser. Toutes ces couches de complexité s'entassent les unes sur les autres, c'est ça. Et Anne, tu disais par exemple que toi, cet entassement de complexité était quelque chose que tu trouvais terrifiant, peut-être, dans une certaine mesure, non ?
Oui, déjà, sa dernière question est terrifiante. Déjà, son constat, un contrôle ne contrôle pas tout, donc c'est déjà un peu inquiétant, parce qu'on pense qu'avec le contrôle, tout va bien se passer, donc ce n'est pas le cas, donc ça, c'est déjà un peu inquiétant. Donc, qui contrôlera les contrôles ? Oui, c'est un peu la question qu'on peut se poser, mais c'est sans fin. Mais surtout, c'est ce qui est important, il en parle aussi dans Langage, Vérité, Exactitude, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a maintenant, probablement, plus une seule personne qui contrôle tout. Quand on pense qu'on est tout d'un coup dans un avion ou encore plus qu'on a des centrales nucléaires, on peut être très, très, très inquiet. Et Jean-Marc Lévy-Leblond dit lui-même, ce qui m'étonne finalement, c'est plutôt qu'il n'y ait pas plus d'accidents.
Oui,
c'est pas qu'il y ait des accidents, c'est surtout qu'il n'y en ait pas plus. Donc ça aussi, c'est également très, très inquiétant.
Oui, c'est que ça fonctionne.
Ça fonctionne. Oui. Quelque part, parfois j'ai des collègues pour plaisanter qui disent ça tombe en marche.
Ah, ça tombe en marche, oui, c'est pas mal.
Ça tombe pas en panne, ça tombe en marche.
Oui.
C'est marrant.
Et donc, ça veut dire que comment on pourrait expliquer que ça fonctionne finalement
C'est-à-dire que c'est fabriqué avec une méthode cartésienne, par petits bouts.
Oui.
Mais finalement, l'ensemble, ça devient un système tellement compliqué que ça devient un sujet d'étude scientifique.
Voilà. Donc est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a trop suivi la méthode de Descartes en suivant le pas à pas et en perdant le chemin, quoi. Le chemin, on l'a perdu de vue.
Ça dépend. Ça après, le trop, là, c'est un jugement sur la finalité de la production. Est-ce que fabriquer un avion, c'est bien ou pas, à la limite, quoi. C'est presque la question qu'il faut se poser.
Mais c'est pas seulement l'avion, c'est que l'avion lui-même, il est pris. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre l'avion comme un avion seulement, mais il est pris dans toute une chaîne.
Oui,
il y a un ordinateur à bord, il y a un truc de contrôle de matériaux, il y a ceci. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que personne n'a la vue d'ensemble. Donc on s'est peut-être trop avancé, parce qu'on ne sait pas où ça nous mène si personne n'a la vue d'ensemble. finalement. Alors, je propose aux éditeurs de faire une petite pause musicale avec Alain Souchon. Choix avance, proposé par Anne. On avance. Hein. Ah, je te dénonce, Anne, hein, parce que mais c'est de circonstance. C'est tout à fait dans le thème de l'émission. Et puis, on se retrouvera avec nos auditeurs juste après la chanson.
Des villas, des mimosas au fond de la baie de Somme. Des familles sur des transats, le pommier, les pommes. Je regardais la mer qui brille dans l'été parfait. Dans l'eau se baignaient des jeunes filles qui m'attiraient. Les promenades le long des dunes en voiture. Pendant qu'elles regardaient en haut la lune pure. Je mettais dans mes mains leurs doigts et j'étais le roi. Comme dans les chansons d'amour d'autrefois. Tous ces petits moments magiques de notre existence, qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance. Tous gaspillent nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent. Qu'il y en avait plein de réservoirs au départ. On avance. C'est une évidence. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance. Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance. Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. Il faut qu'on avance. Soir avec les petits frères, on parlait, on voulait tout le monde refaire, on chantait. Ces musiques et ces mots tendres, comme ils datent, ces lettres d'amour attendent dans quelle boîte. Tous ces petits moments magiques de notre existence, qu'on met dans des sacs plastiques et puis qu'on balance. Gaspille nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent. Il y en avait plein de réservoirs au départ. On avance. C'est une évidence. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance. Tu vois pas tout ce qu'on dépense. On avance. Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. Il faut qu'on avance.
RCF, Radio Chrétienne Francophone.
Voilà, vous étiez avec vous êtes avec les Neveux de René. Merci Alain Souchon d'avoir résumé en quelques mots, en une chanson, ce que signifie être neveu de René. Être neveu de René, ça signifie on avance. Nous sommes dans une compétition effrénée, dans une avancée effrénée. Et c'est bien grâce au père René que nous sommes dans la panade. Voilà, et nous essayons de réfléchir à ça et de nous en sortir du mieux que nous pouvons. Alors, on revient à ce texte « Qui contrôlera les contrôles ?» Finalement, c'est une remise en question du pouvoir des scientifiques, quelque part, qui, face à un problème technique... par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, on sait que l'augmentation du dioxyde de carbone, le réchauffement climatique, c'est... une catastrophe face à laquelle on est. Et moi, je connais un certain nombre de personnes qui disent « Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose. » Et j'ai l'impression qu'on est aussi dans le contrôle. Qui contrôlera les contrôles ? C'est-à-dire, on a déréglé le climat, mais la science a toujours réponse à tout. Est-ce qu'on peut encore croire à ça ? Et puis, il y a ceux qui croient ça, d'une part. Il y a ceux qui se disent « Non, mais quand on va voir qu'on est allé trop loin, on va faire le chemin en sens inverse. »
Sauf que le trop loin... Souvent, c'est vraiment trop tard. Quoi,
c'est ça, c'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut plus refaire le chemin inverse. Il n'y aura, à mon avis, jamais de retour vers le passé. Ça, il faut faire le deuil de ce qui est passé. On ne va pas revenir à la voiture à cheval, aux omnibus, au temps de Zola et de Maupassant et de Balzac. Tout ça est terminé.
C'est clair.
Tout ça est terminé. Voilà. Donc, comment y faire face ?
C'est compliqué. Mais dire que c'est compliqué, ça ne répond pas à la question.
Ça ne répond pas à la question. Quel chemin de pensée peut se dégager par rapport à ça? C'est-à-dire, comment vous voyez le futur si jamais notre temps est pris dans cet amoncellement de complexité?
C'est déjà le cas. Enfin, on voit bien aujourd'hui qu'on a mis en place certains systèmes. Bon, on parlait tout à l'heure de technologie ou de technique, hein, selon ce qu'on entend précisément. Donc, on construit des choses très complexes, des avions, des fusées, des bâtiments incroyables, etc. On a aussi créé des choses qui sont peut-être moins palpables, mais qu'on subit tous les jours, entre guillemets, c'est un système économique. C'est pareil, on s'est auto-organisé d'une certaine façon, hein, l'humanité au fur et à mesure s'est organisée, mais on crée des systèmes qu'on ne maîtrise plus au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système que l'on a, qui était très positif, hein, qui a permis de faire plein de développements dans la société, à une époque où il y avait peut-être aussi moins de monde, il y avait tout un contexte très différent, était très positif, a sûrement contribué au développement de la communauté, mais on voit qu'aujourd'hui ça pose des problèmes et on ne sait pas résoudre ça. C'est-à-dire qu'on devient victime de notre propre système qu'on a mis en place, quoi.
En quelque sorte, c'est quand même un retour vers le passé au sens où on risque un retour vers le sacré primitif. C'est-à-dire que ces choses, ces systèmes tellement complets qui vont finir par nous gouverner. Et on ne va plus oser y toucher, parce que si on y touche, on risque de tout casser.
Et ça, on le voit tous les jours en informatique. Ouh là là là, surtout clique pas là, tu vas tout bousiller. On a l'impression que... Oui, alors qu'un ordinateur, s'il a été fait par les règles de la rationalité, mm-hmm. et si la personne qui l'utilise est rationnelle, on devrait savoir. Mais non, on tremble devant.
Parfois, on entend des gens qui se cachent un petit peu derrière cette complexité, notamment là, je reprends pour le système économique, hein, pour dire que c'est un peu une fatalité, qu'on ne peut pas en sortir et qu'il n'y a que ça à faire. C'est de continuer... dans cette voie-là, quoi.
Et Anne, toi, comment tu vois ce sentiment de terreur face à cette complexité et ainsi de suite que tu décrivais? Est-ce que tu... Par exemple, si on te dit que tu es pessimiste, qu'est-ce que tu réponds à ce genre d'accusation?
Eh ben, je réponds qu'aujourd'hui, peut-être là, en ce moment, à l'heure où nous enregistrons, Donald Trump va dire s'il se retire ou non de la commission des accords de Paris.
Oui.
Chacun... déduira ce qu'il veut,
voilà.
Cette remarque.
Donc, mais il a peut-être de bonnes raisons de le faire, entre guillemets, s'il veut booster son économie, augmenter le taux de croissance des États-Unis et attirer plus d'investissements.
On parlait tout à l'heure justement de science et de croyance.
Oui.
Mais là, on peut voir justement un exemple où Trump, par exemple, j'ai l'impression, d'après sa réaction, qu'il ne croit pas aux problèmes climatiques. Mmh. Les scientifiques disent aujourd'hui.
Ou est-ce qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre? Peut-être qu'il sait très bien que, mais qu'il essaye de cacher en.
Le problème, c'est qu'il y a
enfumant.
Aussi des gens qui suivent ça. Enfin, c'est...
Oui, il y a des gens.
La question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on n'est pas face à un paradoxe gigantesque de se dire qu'on arrive dans cet état de crise, de marasme, de marécage, alors même que si on est d'accord que c'est la méthode cartésienne qui nous a amené à maîtriser tous ces objets, à faire des avions qui volent, des ordinateurs, des systèmes économiques très complexes, l'exigence première que nous donnait René Descartes, c'était de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Mais c'était un secours, et notamment, il nous disait, grâce à la compréhension de la nature, des mécanismes des lois de la nature, comme secours, il va y avoir l'allongement du temps de vie, l'augmentation de la santé, et nous allons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'était un bienfait de la recherche de la vérité.
Mais le problème, justement, c'est que cet empilement, en fait, le problème, ça vient du fait que même si la vie s'est allongée, nous ne sommes pas éternels. Et qu'à chaque nouvelle vie, il faut reparcourir le chemin qui a été parcouru par le prédécesseur.
Oui.
Or, ce chemin devient tellement long qu'une vie ne suffirait pas pour le parcourir.
Ça, c'est intéressant.
Et donc, on est obligé de recevoir les résultats, mais sans plus trop comprendre tous les empilements qui se sont succédés.
Et d'ailleurs, pour revenir à notre auteur qui nous concerne, dans Impatience, on trouve un certain nombre de textes qui questionnent, qui disent pourquoi les scientifiques ne relisent pas les textes des anciens scientifiques. C'est-à-dire, un musicien va jouer Bach, Mozart... et ainsi de suite dans sa formation, alors que nous ne lisons pas les textes des anciens. On prend quelque chose qui a été digéré, compressé et ainsi de suite,
reformulé.
Donc ça, c'est intéressant. Donc un des moyens de se sortir de ça, c'est peut-être aussi de faire ce chemin arrière et comme le disait Souchon dans sa chanson, de refaire le chemin un peu aussi dans l'autre sens de temps à autre. C'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission.
Oui, non, il faut aussi bien voir qu'il y a, voilà, il y a un problème actuellement, c'est que pendant des années, peut-être depuis Descartes ou depuis le siècle des Lumières, on a essayé d'aller vers plus de bonheur. Et puis nos parents pensaient toujours que leurs enfants allaient être plus heureux qu'eux, allaient avoir plus de choses, allaient avoir une vie plus facile. Et là maintenant, en ce moment même, à notre époque, on se rend compte que c'est fini, nos enfants ne seront pas forcément plus heureux. Et ils ne vivront pas forcément mieux qu'eux.
Voilà, on est face à des interrogations gigantesques, mais on peut dire que notre chance, c'est de, ça nous amène à penser, et ensemble, voilà, au moins, on discute de ça, et ça nous permet au moins de réfléchir à tout ça, et de ne pas être dans un enthousiasme naïf. Merci à toutes et à tous, merci à Antoine pour la technique, et puis rendez-vous pour les prochaines émissions, avec sans doute la diffusion d'émissions qui seront tirées du site philosophie.tv. Voilà, et puis ensuite il y aura des rediffusions des Neveux de René, et puis peut-être rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle série d'émissions. Merci, au revoir.